chronique de la Ligue des droits de l'homme de Laval.
Bonjour Frédéric Benoît. Donc aujourd'hui, on continue votre abécédaire. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler ?
Alors aujourd'hui, c'est la lettre M, M comme migration. Parler des migrations, c'est un des enjeux majeurs de ce siècle. On voit dans les discours qu'il en est souvent question, pratiquement exclusivement dans les discours politiques. Alors de fait, l'Europe est devenue l'une des plus importantes régions d'immigration au monde depuis le début de ce siècle. Bon, compte tenu de sa position géographique, de son histoire et aussi de son image quant au respect des droits de l'homme. Alors pourquoi ? Il y a des crises qui se sont succédées. On se souvient des révolutions arabes de 2011 avec ses contre-coups en Tunisie, en Libye, en Égypte. La guerre civile syrienne en 2015, l'invasion de l'Ukraine en 2022. L'Union européenne est face au plus grand mouvement de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces crises ont révélé des lignes de fracture au sein même de l'espace européen et des pays qui le constituent. La politique migratoire est marquée par un accroissement de la montée des populismes qui véhiculent la peur et le rejet de l'autre. Alors c'est vrai, oui, en 2015, l'Europe connaît une augmentation conséquente des arrivées de personnes migrantes. Maritime, on le sait, on a vu les drames. La Méditerranée est qualifiée de cimetière marin. Bon, le chiffre est impressionnant, il ne faut pas cacher le chiffre, c'est 1 million d'arrivées en 2015. Mais si on ramène ça à la proportion de la population européenne, ça ne fait que 0,25% de la population européenne. Donc, est-ce qu'on peut absorber 0,25% de la population européenne ? Ben oui, quand même. Bon, alors, malgré tout, les termes de crise migratoire est repris un peu partout dans les milieux médiatiques et politiques et permet de justifier un durcissement des politiques migratoires.
Alors, est-ce que cela concerne la France également ?
Hélas, oui. La France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, n'échappe malheureusement pas à ce durcissement. On se souvient tous, en tout cas les gens de ma génération, se souviennent de cette phrase « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », nuancée plus tard par « Mais elle doit en prendre fidèlement sa part ». Mais qu'est-ce qu'il en est exactement ? Derrière cette phrase, il y a l'image d'une immigration massive, certains jouant sur la thématique de l'invasion, voire du remplacement, faisant de la présence des étrangers sur le sol français une menace identitaire, culturelle, économique et sécuritaire. Bon, pourtant, la réalité, c'est pas celle-là. La France n'accueille pas et n'a jamais accueilli toute la misère du monde. Je reprends les exemples de tout à l'heure, de la Syrie et de l'Ukraine. 6 millions de Syriens ont quitté leur pays lors de la guerre civile. 6 millions. La France en a accueilli 35 000. Les Ukrainiens, 4 millions de migrants. La France en a accueilli 110 000. Bon, on est loin d'accueillir toute la misère du monde. Et en plus, il faut signaler que les réfugiés le plus souvent se retrouvent pour la plupart dans les pays les plus proches de chez eux. Alors l'Iran et le Pakistan ont accueilli des Afghans, la Syrie a accueilli les Irakiens, la Turquie et le Liban les Syriens, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie les Ukrainiens. Pourtant, ça se durcit. Le 26 janvier 2024, une loi dite pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est promulguée. On est loin d'une France terre d'asile. Bon, l'ensemble des mesures adoptées révèle toujours la même obsession, celle du contrôle de l'immigration, ignorant le fait que l'immigration font partie de l'histoire de l'humanité et qu'elles ne pourront jamais être endiguées ou contrôlées, comme certains l'espèrent et le prétendent.
Et alors, quelles sont ces mesures ?
Alors, il y a une structure qui s'appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a dorénavant l'obligation, et non plus la possibilité, comme c'était précédemment dans le texte, l'obligation de refuser ou de retirer les conditions matérielles d'accueil. Il s'agit des allocations pour les demandeurs d'asile et la possibilité d'être hébergé lorsque les conditions légales sont remplies. Auparavant, un autre exemple, si la personne exilée quittait le lieu d'hébergement qui lui était assigné, elle perdait les conditions matérielles d'accueil. Maintenant, en plus de perdre ses conditions matérielles, elle sera aussi sanctionnée sur le fond de la demande d'asile. Donc plus de titre de séjour, demande d'asile clôturée. Autre chose, la possibilité d'assignation à résidence et de placement en rétention pour la personne en demande d'asile, si elle constitue une menace pour l'ordre public. Alors, cette menace pour l'ordre public n'est pas définie dans le texte. On ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, cette mesure pourrait conduire au placement en rétention de personnes venant d'arriver sur le territoire français sans avoir eu l'occasion de se rendre dans une préfecture. Il y a aussi, dans les mesures, la généralisation des jugements de la Cour nationale du droit d'asile par un magistrat unique. Avant, il était question d'une collégialité qui permettait aussi d'éviter le regard partial sur la situation. La loi durcit les conditions d'accès à un titre de séjour, elle multiplie les obstacles. Donc, je me répète, mais nous sommes loin de l'idée de solidarité et d'hospitalité.
Comment se positionne la Ligue des droits de l'homme par rapport à ces mesures-là ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme et certains de ses partenaires, membres d'une coordination qui s'appelle la Coordination française pour le droit d'asile, ont décidé d'introduire des recours en annulation contre 6 décrets d'application de la loi Asile et Immigration. Mais bon, quel que soit le résultat de ces recours, le plus grave est que cette loi, ces mesures et le discours posé sur ces mesures tendent à valider dans l'imaginaire des citoyens cette association systématique que l'immigration et délinquance sont la même chose, hein, qu'il y a une assimilation entre délinquance et immigration. Dans le texte de loi, plus de la moitié du texte concerne la rétention, concerne le jugement, le recours. Cette loi est marquée par le sceau de la xénophobie. Alors je reviens à l'Ukraine. L'exemple des Ukrainiens est assez déroutant parce que l'Union européenne leur a appliqué une directive dite de protection temporaire qui datait de 2001. Alors ce statut temporaire évite la durée de la procédure d'asile, leur permet de travailler immédiatement et elle permet de mobiliser les collectivités territoriales et elle permet l'accès à des logements sociaux et à des soins immédiats. Donc là, on ne comprend pas, quoi, c'est pas la même chose. Cette protection temporaire est d'ailleurs prolongée jusqu'en mars 2025. Elle dure toujours, quoi. Que dire sur cette comparaison ? Les Syriens n'ont pas bénéficié de ça. Donc il y a une xénophobie, mais en plus une xénophobie discriminante. C'est-à-dire que tous les peuples ne sont pas regardés de la même manière. Pour rappeler ici que ce n'est pas par plaisir que tant d'hommes et de femmes quittent leur pays. C'est un parcours extrêmement violent de quitter un lieu qui est violent, violent par un système politique de dictature, par les guerres. Et en plus, il faut traverser un continent, traverser une mer. Ce n'est pas joyeux d'immigrer. Il faut répéter que l'immigration continuera. Les humains ont toujours bougé. Ils ont toujours bougé et vous pouvez mettre des murs, des barrières, tout ce que vous voulez, vous n'empêcherez jamais l'immigration. Les gens qui n'ont rien vont aller vers les lieux où il y a tout. Alors qu'on peut mettre des voies légales, on peut mettre des restrictions. Il vaudrait mieux penser à des politiques d'accueil dignes pour tous et toutes, même si elles demandent du courage politique. Ce serait une solution plus pérenne pour le respect des droits des personnes exilées et pour la société. Alors je renvoie les auditeurs au podcast sur identité, car il fait écho à cette histoire des migrations, hein, sur les représentations qu'on peut avoir chacun.
Et donc on peut le retrouver sur l'autreradio.fr. Merci beaucoup Frédéric Benoît.
Merci Margot.